Un fer de lance me passe par le corps, depuis le cœur jusqu'aux yeux. Les pieds sont là, devant moi, immobiles. Ils me regardent et m'appellent. Mes yeux, où sont mes yeux ?
Du 24 novembre au 3 décembre 2008, le Conseil général du Var organisait à Toulon les deuxièmes rencontres artistiques du Var, permettant aux artistes et enseignants d'échanger sur les nouvelles écritures du spectacle vivant.
Ça fait des années que je suis dans la salle de spectacle. J'applaudis, je crache, je jure.
Le 2 décembre 2008, la journée était consacrée aux nouvelles écritures et nouveaux territoires de la danse, en partenariat avec la Tannerie à Barjols et le 3 Bicef à Aix-en-Provence, deux lieux de résidence et de création pluridisciplinaires. Caroline Breton, directrice de la Tannerie, et Sylvie Gerbeau, du 3 Bicef, nous présentent les participants de ces rencontres, dont les débats étaient animés par Frédéric Kahn, journaliste et collaborateur de la revue Mouvement.
Alors, nous avons pensé à un certain nombre d'intervenants pour développer ces questions. Les nouvelles écritures de la danse, comment se définissent-elles ? Comment s'inscrivent-elles dans l'histoire de la danse ? Comment se produisent-elles ? Comment se diffusent-elles ? Et comment rencontrent-elles le public ? On a eu envie d'inviter des gens d'un peu toutes les places de ce métier-là, c'est-à-dire des chorégraphes, des historiens, des chercheurs, des critiques, des opérateurs.
Donc moi je vais vous présenter Gwendaline Bacchini qui est une jeune chorégraphe et vidéaste varoise.
Gérard Mayen, il est critique de danse, il est collaborateur régulier pour notamment le journal Dansé, Mouvement, Quant à la danse. Il est praticien de la méthode Feldenkrais et il est médiateur du développement de la culture chorégraphique auprès des publics.
Donc je vous présenterai Christophe Marquis. Directeur de l'échangeur de Frères Retardés-Nois en Picardie, qui est un centre de création et de production, qui articule accompagnement d'artistes singuliers de la production jusqu'à la diffusion et projet de territoire, parce qu'il œuvre en milieu rural.
Alors, Sylvie Clidière, qui est à ma droite, elle a alterné action culturelle, collaboration théâtrale, enseignement, notamment à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Bourges. Elle accompagne depuis une trentaine d'années le cheminement des arts de la rue. Elle étudie la danse hors les murs depuis 2002, en relation avec Dansem, lieu public et le réseau Ciudades que Danza.
Donc je vais continuer avec Serge Ricci, qui est originaire de Toulon et qui vit et travaille à Paris et qui fonde sa compagnie en 1994. Son œuvre dans l'écriture tient d'une plasticité globale, invite au déplacement à travers des dispositifs qui intègrent les théâtres, mais aussi l'espace urbain et aussi la nature.
Alix de Moran, elle est danseuse de formation, diplômée de l'École internationale Jacques Lecoq. Elle mène depuis les années 90 des recherches sur les nomadismes artistiques et les expériences esthétiques menées dans l'espace public et a animé à l'Université de Lyon un atelier critique intitulé « Lire et écrire la danse contemporaine ». Anne Le Bâtard, elle danse dans la compagnie Zit à la nuit, celle de Karine Vink à Bruxelles, avec Georges Apex. En 93, elle fonde la compagnie Ex Nihilo avec Jean-Antoine Bigot. Et de par sa pratique de la danse dans l'espace public, elle est appelée à collaborer avec des compagnies comme Ilotopie sur la création Narcisse Guette ou avec Zinc, c'est-à-dire l'espace culture multimédia de la Friche à la Belle de Mai, pour qui elle met en place un workshop questionnant corps, multimédia et performance. Ensuite, en fin de matinée, c'est ça, nous rejoindra Carlota Ikeda. Danseuse et chorégraphe, elle se forme au ballet classique à l'université de Tokyo avant de découvrir le travail de Tatsumi Ishikata, créateur du buto. Elle inscrit son travail dans cette tradition. Elle crée en 1974 sa compagnie Ariadon. Alors voilà, on a pensé entamer la question avec Gérard Mayen, à qui on a demandé de faire une resituation historique de la question des nouvelles écritures de la danse.
Dans ma logique, dans la logique de mon développement, les nouvelles écritures en question sont le courant en fait très principalement français, apparu au milieu des années 90, et que, disons, le grand public, si tant est que nous avons un grand public dans ce domaine-là, aura retenu comme étant celui de la non-danse. Moi, je le qualifie plutôt de courant de la déconstruction de la représentation spectaculaire. Alors voilà, cette question de l'inscription historique de ces nouvelles écritures. J'ai tout de suite pensé à la phrase « du passé faisant table rase ». Est-ce que le passé existe vraiment ? Et je me disais que la danse était peut-être bien effectivement cet art de ce passé qui n'existerait pas. Qu'est-ce que va être le passé à partir de là ? Eh bien, le passé va être paradoxalement peut-être une production du présent, la manière dont nous allons en constituer l'histoire, en instaurer le récit, en articuler des représentations. Donc indubitablement, au moins en France, la danse contemporaine naît véritablement donc d'un projet de se détacher de l'empreinte institutionnelle de l'opéra de Paris, de sa tradition. On tourne la page. Bon, le passé n'existe pas et nous sommes dans un présent absolu. Alors, de quoi parle-t-on à propos donc des nouvelles écritures de la danse ? Donc, l'une des figures type va être de réfléchir en termes de rupture. Christophe Vavelet donc commente. Nijinsky est l'un des noms par lesquels la modernité en danse s'est trouvée frayée. L'entendement du monde s'est trouvé modifié. On assiste en art à l'émergence d'une tradition critique où l'œuvre problématise ses propres conditions de possibilité. Il y aurait donc bien une sorte de tradition finalement de la modernité, problématisation de l'œuvre par elle-même de ses propres conditions de possibilité qui serait sans doute l'un des paradigmes les plus convaincants pour définir cette attitude de la modernité en danse. Alors, j'ai évoqué incidemment cette séquence du Judson. Alors, effectivement, donc, le courant des années 90 en France va aller beaucoup rechercher cette référence. Judson Church, on est au milieu des années 60, entre 63-64, on est à New York et ce courant donc se pose en rupture donc avec la modern dance. Modern dance qui est critiquée pour avoir finalement peu mérité son nom de moderne, dans ce sens qu'elle reproduit la grande forme spectaculaire sur grand plateau, basée sur, alors c'est l'image, vous savez, surtout Martha Graham, donc basée sur la grande narration, sur la grande psychologisation, etc. Donc Judson Church va travailler sur des notions, ben, investir un corps non performant, une revisitation du geste brut, du geste neutre, du geste peu éminent. C'est aussi un courant, par exemple, qui renonce aux espaces habituels de la représentation, qui délibérément donc quitte le théâtre, là, pour le coup, effectivement. C'est un courant qui va travailler de manière extrêmement collective, qui va travailler dans la totale interdisciplinarité. C'est un mode d'écriture chorégraphique qui va beaucoup passer par la notion de score, de programme d'action, mais on ne va absolument pas préconcevoir et prédéterminer une écriture chorégraphique avec toute la marge extrême de variabilité, de remise en cause, de reprise, de questionnement sur la façon même de le faire. Bon, il va s'en dire, l'improvisation est également massivement au cœur de la démarche. Donc, on voit bien comment ces éléments vont être reconsidérés donc dans le milieu des années 90 par le courant dont je vous parlais. Bon, on va donc reconnaître beaucoup de ces éléments, les voir réinvestis de manière nouvelle. Et je me suis concentré notamment sur Parades and Changes Replace, c'est-à-dire Parades and Changes nouvelle mise en jeu, disons, qui vient d'être produit par Anne Colo à partir de la pièce de Dana Halprin datant de 64. 5, et elle explique donc Anne Colo, en 2003, alors je travaillais sur une thématique qui a nourri et continue de nourrir mes projets, qui est l'être ensemble en danse, je me suis plongé dans la documentation qui existait sur le travail d'Anna Halprin. Parades and Changes a très vite captivé mon attention, les quelques textes et les photos éparses qui en subsistaient ont fait résonner des choses très fortes pour moi. Un sens solaire du collectif, une relation à la transformation permanente, à la matérialité des lieux, un travail sur l'expérience de l'émotionnel et du sensible, qui assumait simplement et crânement une liberté, une sensorialité que je trouvais vitale. J'ai eu envie de creuser plus avant. S'agissait-il uniquement d'un certain fantasme des années 60, d'une utopie désuète, ou y avait-il la matière à relancer une expérience qui fasse sens aujourd'hui? Alors, à partir de là, je voudrais problématiser, je termine, donc je m'approche de la conclusion. Qu'est-ce que ce type d'attitude produit? J'ai vu Paris and Changes Replay au centre Beaubourg, donc, dans le cadre du Festival d'automne, voici un mois. Bon, ben, j'avoue que je reste dans une perplexité, puisque c'est-à-dire que la pièce est magnifique. Bon, malgré tout ça, ils sont dans la, effectivement, la reproduction, la réinvention, en fait, d'une forme d'excellence, de, voilà, d'une forme peut-être quasi parfaite. Alors, vous voyez bien là comment on est donc dans les paradoxes et les retournements de cette question donc de la nouveauté, de la réinvention, de la réinterprétation, de la lecture et d'un passé que nous pourrions considérer donc comme essentiellement le fruit d'une production au présent. Et donc, quelques années plus tard, 10 ans plus tard, même Boris Charmatz accède, il n'est pas le premier d'ailleurs, il y a eu Emmanuel Louis d'Angers avant, mais lui accède donc au Centre chorégraphique national de Rennes et nous propose comme projet paradoxal, stimulant et qu'il jure devoir être excitant et bouillonnant, un musée donc, de la danse. Voilà.
Écriture et territoire, nouveau territoire. Voici maintenant quelques mots de Christophe Marquis, directeur de l'Échangeur, lieu de création en Picardie, introduit par Fred Kahn.
Des tentatives de proposer des nouvelles formes de production artistique répondent également des propositions pour accompagner ces nouvelles formes artistiques. Peut-être donc quelques mots sur l'échangeur. Est-ce que à des nouvelles écritures doit répondre des nouvelles formes de production et d'accompagnement?
Je ne me pose pas la question de cette histoire de la nouveauté ou de la nouvelle danse, que je me méfie de ces mots-là, que je me méfie des mots de l'émergence, etc., etc. Je ne peux pas répondre à cette question de l'accompagnement des nouvelles écritures, parce que je ne me pose pas cette question-là. Alors, en deux mots, juste en introduction, l'échangeur, c'est une structure qui est donc au départ un centre de création et de production, qui est né de l'arrivée d'une compagnie dans une toute petite ville du sud de l'Aisne, et on rachète une friche de 2000 mètres carrés, beaucoup trop grande pour la seule compagnie où à l'époque nous n'étions que 3, et on s'est immédiatement dit qu'il fallait faire un endroit pour le partager. Il y avait un manque d'un endroit où des équipes puissent se poser, prendre du temps, et que la question de la production soit réellement posée. Le cœur, la plus grosse partie de l'activité de l'échangeur est effectivement d'accueillir des compagnies chorégraphiques, même si dès le départ sur le projet, j'avais écrit danse et autres scènes. Et quand j'ai mis en place les premières résidences, je voulais qu'il y ait un cadre très précis sur ces résidences, c'est-à-dire que ça amène au moins 3 choses. Une notion évidemment de lieu, c'est-à-dire un studio pour travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la notion de temps. C'était de pouvoir donner du temps à des artistes. Et la troisième chose importante dans la résidence, c'est de se donner les moyens, d'aller chercher les moyens financiers pour qu'il y ait une participation financière aux résidences. Bien évidemment, il y avait aussi, dès le début, pour nous, l'envie, et c'est pas vrai toujours, hein, parce que il n'y a pas de modèle, mais d'essayer de faire en sorte que ces équipes installées soient en relation avec ce territoire. Alors, la Picardie, c'est une seule scène nationale, à l'époque, 2 scènes conventionnées, un petit noyau de théâtre de ville, et dans notre département, si on le coupe en 2 par la moitié, il y a un théâtre dans le sud et tout le reste est dans le nord. Donc, c'est-à-dire que nous, on est dans un endroit où la question du public public se pose pas parce qu'il n'y a pas de public. Il n'y a pas de proposition, donc il n'y a pas de public. Et la question se posait plutôt dans un rapport de proximité avec la population. Donc on a inventé des tas de trucs. Alors on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. On a ouvert les studios pour faire des répétitions publiques. Donc. Et puis très rapidement, il y a des gens qui sont venus nous voir à Ferrand-Tardenois pour dire ouais, en disant ouais c'est super, on vient voir des tas de travaux là chez vous. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a aucun cours de danse à Ferrand-Tardenois. Or, il y a des danseurs qui sont là. Donc, est-ce qu'on ne peut pas inventer un truc comme ça? Est-ce que vous ne pourriez pas inventer un truc comme ça? Donc, on a ouvert un cours de danse contemporaine. Et puis après, il y a des histoires très particulières qui sont... là, encore une fois, je reviens sur Laurence et Mohamed, mais ils avaient envie d'avoir des soudeurs sur le deuxième spectacle qui s'appelle Hadid, qui veut dire métal en arabe. Et Shafik me disait, moi je veux des soudeurs sur le plateau. Il y a une histoire de construction et de déconstruction du décor. Et je veux des vrais gens. Et je lui dis, ouais, mais ça va pas être très simple quand même de trouver des soudeurs qui bossent déjà 8 heures à l'usine. Puis de leur dire, ouais, vous allez voir, ça va être super, on va faire 4 heures de répétition avec des chorégraphes. Là, ça va être super top entre 8h et minuit. Alors, je me suis dit, plutôt, on pourrait peut-être essayer de voir avec l'ANPE, voir s'il n'y a pas des gens qui sont au chômage, justement, et puis de voir si on ne peut pas les intégrer dans un projet et que, d'un seul coup, l'entreprise, ce soit la vôtre, ce soit la nôtre, et on les engage. Donc, je suis allé voir l'ANPE, puis la mission locale, puis ils m'ont dit, les soudeurs au chômage, ça n'existe pas. Un bon soudeur, il bosse, et on en a besoin, on est même plutôt en manque de formation. Et la mission locale m'a dit, mais on pourrait réactiver un plan de formation au métier de la métallurgie. Parce que ça manque depuis 4 ans et on pourrait bosser avec le conseil régional, avec la FIDAL, la mission locale, et puis essayer de voir des jeunes qui sont en réinsertion et de leur proposer une formation autour de la métallurgie. Et puis du coup l'entreprise, puisque logiquement ils sont d'abord en stage de formation et après ils sont en stage en entreprise, l'entreprise ça serait le cadre du spectacle. Donc on a fait ça, ça a pris un petit peu de temps, mais on a fait ça. Voilà, ça c'est un exemple de quelque chose qui se passe avec le territoire. En même temps, c'est pas un modèle non plus, parce qu'après le conseil régional m'a dit waouh, ouais, c'était vraiment formidable cette histoire de métallurgiste. Comment on peut faire d'autres choses avec d'autres métiers? Je sais pas, on pense à la boulangerie. Moi, je suis pas capable de faire ça, quoi. Là, c'est parce qu'il y avait un projet. On a parlé d'un projet. Enfin, toutes les histoires qu'on peut essayer d'inventer sont des histoires qui partent d'abord des projets artistiques. L'accompagnement des projets culturels ne peut se faire que sur une proposition artistique, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça a été assez difficile à expliquer ça, mais en même temps, je crois que ça a été entendu.
Christophe Marquis, bonsoir.
Bonsoir.
On assiste depuis une dizaine d'années au moins à un phénomène de concentration des lieux de la danse sur le territoire français, une concentration largement tributaire des politiques culturelles. Quel regard vous portez sur ce phénomène de concentration? Et puis comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui de revivifier, de redensifier un réseau de petits lieux, de manière à ce que cette art qu'est la danse contemporaine soit accessible à un plus large public?
Je crois que la question, je mets des guillemets à ça, des petits lieux. Hein. Moi, je suis effectivement dans une région très rurale et dans un département très rural, c'est la Picardie et c'est l'Aisne. Donc on a autour de nous un nombre de théâtres de ville qui, a priori, de par leur mission et de par l'envie des élus aussi, n'étaient pas portés particulièrement sur la danse contemporaine, c'est évident. Donc je crois que ce que nous tentons de faire, c'est à la fois de travailler régulièrement en réseau. Donc c'est de partager d'abord de l'information sur des artistes, d'inviter ces mêmes artistes à venir dans des réunions de réseau. Je crois que c'est surtout ça, c'est à la fois de donner la possibilité à ces directeurs qui n'en avaient pas forcément la mission de pouvoir le défendre auprès de leurs élus, parce qu'on est plusieurs, et dès qu'on est plusieurs, on est forcément plus fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois beaucoup au rôle de l'école. Voilà, moi, je crois au service public et je pense qu'il y a à réinvestir ce champ de l'école parce que là aussi, encore une fois, c'est une question de durée. Je crois que plus on aura la possibilité avec les enseignants de montrer des spectacles, mais pas seulement juste de montrer dans un rapport consumériste. Donc l'idée, là encore, c'est sur de la rencontre et du coup, on fait venir un certain nombre d'universitaires, de journalistes, décrypter, travailler sur l'analyse du mouvement. Enfin, voilà, c'est une formation du spectateur, on pourrait dire.
On s'est beaucoup interrogé sur les nouvelles écritures de la danse. Est-ce que ces nouvelles écritures correspondent, sont peut-être aussi à l'aise avec des nouveaux territoires de l'art ? Pour le dire vite, est-ce que la danse contemporaine est à l'aise dans les friches ?
Alors, elle est à l'aise dans les friches pour une raison simple, c'est que je crois que ces dernières années, les friches ou les fabriques ou les lieux intermédiaires, comme on les appelle, se sont construites sur la culture du manque. Nous, on a créé dans une friche un endroit, et il y en a d'autres, bien évidemment, effectivement le manque de place sur la danse et pas seulement la danse, sur les gens qui sont un peu inclassables, atypiques et qui à mon sens n'ont pas encore le droit de citer du moins pas assez souvent dans les théâtres ou du moins dans ce réseau de scènes labellisées. Donc oui, les friches sont une réponse à un manque et du coup on construit aussi une autre réflexion au rapport au territoire et à la population. Comment on retravaille peut-être un nouveau sens de questionnement de l'art dans la cité, enfin je dis dans la cité même si je suis en milieu rural, mais il y a de ça en tout cas.
Merci Christophe Marquis.
Je vais passer la parole à Carlotta Ikeda. Tout à l'heure, Gérard Mayen a bien mis en avant que la rupture radicale n'existait pas et qu'il y avait comme ça des filiations, même si elles étaient des fois pas, elles étaient assez souterraines. Alors vous-même, vous avez une formation de ballet classique, vous avez découvert le buto. Alors on pourrait vous demander comment finalement vous êtes approprié cet art ancestral pour le faire entrer dans la contemporanéité.
Pour moi, la danse, c'est vraiment... De toute façon, je n'ai pas besoin de technique, mais le corps, c'est le vivant, bouge. Il y a quelque chose de l'intérieur, il y a des images ou envie de bouger. Ça, c'est le début de point. Et après, il y a beaucoup de techniques pour la danse. Et qu'est-ce que c'est la danse ? La technique. Il faut connaître. Donc, je suis passée comme ça. Et à la fin, de toute façon, il faut que je trouve ma danse. Et là, je n'ai plus besoin de technique. C'est là mon corps qui a envie de danser. Et c'est tout, hein. Donc, je ne sais pas, c'est l'écriture, nouvelle écriture. Je ne comprends pas les mots. Mais toujours, on vibre avec mon corps, tout le monde. Ça veut dire, c'est là, c'est mon écriture. Avec le corps. Oui, c'est tout.
Bonjour Carlotta Ikeda.
Oui, bonjour.
La mémoire, elle est dans le corps.
Oui.
C'est l'essence de la danse plutôt.
Je crois que pour moi, c'est la mémoire. Je ne sais pas quelle mémoire que j'en ai. Mais dès que je danse, et ça vient de le mouvement ou à... Je ne sais pas. Je peux pas précis, mais il y a une mémoire. Ça vient, sort quand j'ai... Quand je suis née, quelle forme j'avais, éducation et tout ça, des différentes religions, différentes. Mais ça, c'est pas important pour moi. C'est le human, c'est tout le monde la même.
Le buto, qui est apparu dans les années 60, mm-hmm. aujourd'hui est devenu un peu esthétisante. On oublie que le buto, c'est aussi quelque chose qui va chercher dans les profondeurs mmh. du corps et de l'âme. Mmh. Le buto, c'est la danse des ténèbres.
Mmh. Ouais, mais je ne sais pas, danse de ténèbres, c'est Hijikata qui a créé. Et ça, c'est grand génie, je crois. Hein. Et là, notre époque, c'est influence de lui. Je ne sais pas, maintenant, jeunes danseurs qui vraiment influence de danse ténèbre ou pas, chacun qui cherche soi-même. Et moi, je ne connais pas danse ténèbre, mais j'ai vu le spectacle. Mais quel but, je ne sais pas. Donc, ça fait longtemps que j'ai cherché moi-même qu'est-ce que c'est le danse ténèbre. J'ai trouvé de l'intérieur de soi-même qui doit parler quelque chose avec mon corps. Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Carlota Ikeda.
Merci.
À l'Hôtel des Arts de Toulon, le public des rencontres artistiques du Var était invité, à l'occasion de cette journée consacrée à la danse, à découvrir l'installation performance « L'intérieur est toujours trop étroit » par la compagnie Ex Nihilo et l'installation interactive « Tactim » par la compagnie Rouge Indigo. Voici maintenant une déambulation sonore autour de ces deux installations qui commence avec quelques mots d'explication de Gwendoline Bacchini sur son dispositif Tactim.
Tu touches et tu manipules, tu fais agir le danseur. Si tu ne touches pas, il ne se passe rien.
C'est toi qui en fait provoques
les... C'est toi qui provoques les mots touchés, tu vas te voir agir.
Et qui se transforme régulièrement, la chorégraphie?
Oui, tout le temps. Elle est tout le temps, bon, il y a des lignes de base. Ouais. Après, si tu la touches, elle, directement, ça se transforme. Et si tu touches rien, elle revient à sa position.
Ah oui, tu dis des lignes de base, il y a un matériau chorégraphique de base, en fait. T'arrives avec la matière, tu as
le matériau. Non, c'est de l'improvisation.
Tu le crées au fur et à mesure.
Ça appartient à
l'improvisation. En fait, c'est le dispositif qui t'est créé, en fait.
C'est le visiteur qui
le visiteur. Mais il fait partie du dispositif.
Il
intervient comme la vidéo, comme l'écran, comme l'objet.
Sans le visiteur, l'œuvre n'existe pas.
Ouais.
C'est dans ce rapport-là, le changement de rapport au public, depuis Berlin, je travaille sur ça. Depuis un an. C'est ce changement. Changement esthétique.
La relation avec le public, elle est très directe puisque c'est la personne qui est là qui va toucher. Donc ça existe comme la manière de toucher. On a toujours pas de livre qui peuvent. On a un livre qui pourrait raconter ton histoire, ta biographie, mais qu'est-ce qu'il pourrait raconter sur le papier? Tu vois, c'est pas comme au théâtre où tu as le scénario, tu as le texte.
Ça raconte. C'est complètement ça. Ça change complètement le rapport au temps de l'œuvre. Il n'y a pas quelque chose à raconter. Il n'y a pas de linéarité. C'est-à-dire, on ne part pas d'un point A jusqu'à un point B. On fait tout en un seul. L'œuvre chorégraphique est pensée en un seul point sur la ligne du temps. Mais pour justement instaurer le rapport dont tu parles, qui est direct au public. Il fallait que je trouve un nouvel. Je pensais qu'à partir de nouvelles technologies, on pouvait vraiment créer un espace et un temps pour la danse. Autre, pas nouveau, je m'en fous nouveau, mais non. Autre, tu vois. Juste l'idée de créer un autre espace pour la danse. Et après, avoir ce rapport direct à l'image.
Ça veut dire qu'il y a un répertoire de mouvements qui correspondent à chaque partie du corps que l'on peut toucher.
Si je fais ça.
Thank you. besoin de parler, tu vois.
Ça, c'est sympa, mais viens, bah...
Anne Le Bâtard, du collectif Ex Nihilo, qui présentait « L'intérieur est toujours trop étroit », performance dont vous venez d'entendre quelques échos, répond maintenant aux questions de Fred Kahn. À l'occasion du débat qui suivait cette performance, débat qui aborde la question des territoires de la danse, et notamment de son inscription dans l'espace public.
Comment se frotter à l'espace urbain, effectivement, qui est gigantesque, qui a quelque chose d'inhumain, tout en préservant, effectivement, cette part d'insaisissable, d'indicible, d'infime qui fait la poésie d'une proposition artistique. Et, par exemple, dans les arts de la rue, souvent la réponse, c'est du gigantisme. Vous, c'est pas du tout sur ce terrain-là que vous vous situez, presque au contraire.
Donc c'est vrai que ce projet-là, finalement, il est à la fois fondateur d'une envie de changer en tout cas le territoire d'investigation. La ville comme sujet, toujours et encore notre préoccupation. Dans le processus, on a commencé comme ça, on s'est directement exposé dès le moment de la répétition, en fait. Et c'est vrai que on a gagné, en fait, on a travaillé notre force dans cette fragilité de être seulement comme danseur au milieu de la ville, en fait. Et par étapes dans notre chemin. Alors c'est vrai que comme danseur, par contre, on a beaucoup bougé dans notre pratique de la danse, dans la pratique de corps, dans la présence. Et dans les arts de la rue, c'est vraiment, je dirais, l'endroit où on n'est pas dans les arts de la rue, c'est-à-dire où nos collègues nous interpellent toujours la question du visible et de l'invisible dans la rue et de ces petites formes qui s'adressent aussi à une ville, mais pas avec un géant de je ne sais plus combien de mètres, mais avec quatre danseurs sur des bancs publics. Cette fragilité-là, c'est aussi, comme danseur, c'est aussi là qu'on a envie de toucher les gens, en fait. C'est avec nos corps et dans leur confrontation avec cette ville. C'est la place où on est, c'est-à-dire qu'à la fois par rapport aux arts de la rue, on a une envie de questionner la ville d'une certaine manière, et par rapport à la danse, de la sortir aussi de son espace, en fait.
Juste sur la question de l'économie, malgré tout, est-ce que une des raisons pour lesquelles on va dans la rue, c'est parce que les institutions théâtrales sont fermées?
C'est plutôt la question de pas être chorégraphe quand on a commencé. C'était pour la Biennale des jeunes créateurs de la ville de Turin. Et pour participer à ce projet, il fallait être chorégraphe. Et nous, on était quatre danseurs. Enfin, on n'était pas chorégraphe, on était danseurs. Et on n'avait pas forcément envie de monter une compagnie, pas forcément et pas du tout à notre nom, ni avec un de nous qui serait le chorégraphe des autres. Donc ça, c'est ce qui nous a amené à faire ça. Ex Nihilo, depuis qu'on a commencé, en fait, on chemine avec plein d'idées. Le fait de sortir la danse d'un plateau de théâtre et des studios, de s'exposer et de rencontrer, ça s'est posé dès le départ. Et on crée produit pour un espace particulier, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. c'est quand même très luxueux. Et le fait est, c'est que depuis le début, on répète, on conçoit les spectacles dans les lieux dans lesquels on veut les jouer. Rarement, on crée pas dans un studio pour sortir ensuite. Et en amenant le public, surtout à ne pas être un public, en fait. Aussi, ça, je dirais que c'est le côté militant de la danse. En tout cas, de pouvoir répondre parfois à des gens qui disent que la danse, effectivement, c'est toujours du petit, de l'invisible, du machin, du recoin, du caché, de l'intime. Oui, c'est ça aussi, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des formes aussi qui s'imposent.
Sylvie Clidière et Alix de Morant, chercheurs, proposaient au cours du débat une réflexion sur la danse dans l'espace public, accompagnée d'une présentation de vidéos sur les spectacles de Dominique Boivin ou Julie Desprairies, dont vous entendez plusieurs extraits sonores au cours de cette émission. Voici maintenant une double interview de Sylvie Clidière et Alix de Morant, dans laquelle elles reviennent sur quelques-uns des points évoqués au cours du débat. Sylvie Clidière, on a vu tout à l'heure que la rue met en évidence la notion de risque, de danger. Mais au fond, mettre en danger, c'est la fonction et le propos même de l'art, quel qu'il soit d'ailleurs. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on perçoit autant aujourd'hui la rue comme un espace périlleux ? Est-ce que c'est une réalité ou un fantasme ?
Alors, à mon avis, la rue en elle-même n'est pas un espace périlleux. C'est l'endroit où on vit. C'est l'endroit qui nous appartient, c'est pour ça que ça s'appelle l'espace public. Et quand on dit que c'est périlleux, ça fait partie des idéologies sécuritaires avec lesquelles je ne suis pas d'accord du tout. Donc si j'ai parlé de risque, j'ai parlé de risque tout bêtement physique, hein, parce qu'on peut se faire mal, et aussi de risque par rapport à l'attention portée à l'art. Parce que je crois qu'il est important de pouvoir se concentrer sur ce qu'on voit, y développer son propre imaginaire. Je crois que l'activité principale du public, c'est une activité de pensée et d'émotion, et que c'est difficile quand c'est troublé. Et c'est de cela seulement que j'ai parlé.
Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, les arts de la rue sont-ils si méfiants à l'égard de la danse contemporaine ?
Je crois qu'il s'agit plutôt de l'inquiétude des programmateurs. Je crois que de façon très honnête, les programmateurs souhaitent plaire à leur public. Et que parfois, peut-être avec une légère incidence des élus, qui souhaitent n'avoir pas de retour désagréable de ce qu'ils proposent avec l'argent du peuple, les programmateurs dociles se disent « il ne faut pas troubler, il ne faut pas déplaire, il ne faut surtout pas scandaliser ». Et qu'en effet, dans l'espace public, c'est pour le tout public. Donc il y a d'un côté des choses transgressives qui ne peuvent pas se passer dans la rue, et d'autre part cette crainte que le public soit lassé ou que le public demande des comptes à ce qui est payé par l'argent du contribuable. Et cette crainte est parfois exagérée et fait que la danse de façon un peu conformiste, la danse contemporaine en particulier, est assimilée à quelque chose d'intellectuel, de difficile, un peu comme l'art contemporain d'ailleurs. Donc la danse partage ce crédit de méfiance à l'égard des formes contemporaines.
Les arts de la rue, terme un peu vague, un peu étrange, on n'a jamais dit les arts de la salle. Danse dans une salle, sur un plateau, ou danse dans la rue, c'est au fond la même chose, c'est utiliser un espace.
Bien sûr, je pense que le terme art de la rue a une histoire qui est l'histoire des pionniers des années immédiatement post-68, parfois même un peu avant, qui allaient effectivement se colter à la rue et se réclamaient de la tradition saltimbanque, etc., etc. Petit à petit, le mot a sonné aux oreilles des subventionneurs. Donc, le terme qui permet d'avoir des subventions et d'entrer dans une catégorie est devenu comme ça une espèce d'obligation, mais qui ne représente pas grand-chose de sérieux. Mais la subversion, ça peut être la lenteur, ça peut être le silence, ça peut être l'immobilité. Mais ça, c'est pas très spectaculaire et c'est difficile à subventionner.
Alix Demorand, vous nous avez montré tout à l'heure plusieurs exemples de spectacles dans l'espace public, souvent des spectacles qui se situent dans des grands espaces. Ce qui pose du coup la question de l'échelle.
Alors je pense que la spécificité de la danse, c'est pas de se produire dans des espaces immenses, mais c'est d'aller dans n'importe quel espace et de pouvoir traiter n'importe quel espace de la même manière. Donc je crois que c'est plutôt la capacité de diffusion et de dispersion qui nous intéresse plutôt que de penser à l'échelle du gigantisme qui a d'ailleurs été relativement dangereux si on se rappelle l'histoire et les danses de masse de sinistre mémoire de Rudolf Laban et de Marie Wigman qui ont chorégraphié les premières Olympiades nazies. Donc à un moment donné, il peut y avoir des désirs comme une compagnie comme Ex Nihilo de travailler à la fois sur du tout petit, du fragile, en posant quelques présences sur des bancs publics dans un espace de passage, mais comme l'a dit Anne très bien aussi, de vouloir exploser, se donner les dimensions du ballet en mettant 10 danseurs au milieu d'une grande esplanade pour danser la foule. Mais toutes les échelles sont possibles, absolument toutes.
La performance justement que montraient Anne Le Batard et Jean-Antoine Bigot s'intitule « L'intérieur est toujours trop petit ». Est-ce que par réflexion ou en miroir, l'extérieur n'est pas toujours trop grand ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je rejoindrai là ce que vient de dire Sylvie sur la question de la subversion et que la subversion, ça peut être justement de poser une simple présence à l'endroit où elle n'est pas attendue. L'intérêt d'être dehors, c'est de s'exposer. Et c'est d'être disponible, en fait, à la rencontre.
Merci Alix Demorand, merci Sylvie Clidière. Voici, pour conclure cette émission, l'intervention de Serge Ricci, danseur et chorégraphe au sein de la compagnie Mi-Octobre, une compagnie pluridisciplinaire.
Moi, je me retrouve là en fin de parcours de cette journée avec un propos à l'extérieur. Au début, c'est pas du tout ma spécificité. Moi, je suis pas du tout un artiste de l'extérieur, au début ni de l'intérieur. Mais par contre, je voulais parler, parce que je suis d'accord avec toi, une écriture, elle n'existe pas, mais absolument pas. Moi, je suis vraiment radical si elle ne cherche pas à rencontrer. Écrire, pourquoi faire hein. Écrire pour rester entre nous, en huis clos. Ça a été aussi des grandes discussions sur la danse. Si la danse est faite pour rester en huis clos, moi je ne vois pas. La danse, c'est peut-être la terre la plus invitante, la plus attractive. Toutes les dernières années l'ont prouvé. C'est le lieu où on a trouvé le plus de collaboration. C'est pour ça que j'aime pas le mot pluridisciplinaire. Et de ce fait, je trouve que moi je pense que une écriture, si on parle d'écriture, donc je ne fais plus ni nouvelle ni ancienne, mais je pense qu'une écriture, ça doit rencontrer. Le terme « nouvelles écritures », je le trouve carrément dangereux, mais très dangereux parce que ça met en cause tout un système d'arbitrage, de carrière, de liste, de ceux qui rentrent dans la liste et de ceux qui ne rentrent pas. Et c'est pour ça que je dirais aujourd'hui presque, mais avec beaucoup de réserve, parce que je ne sais pas vraiment, je dirais que ce travail d'écriture... il n'a pas d'auteur, c'est un acte spontané. Tout à l'heure, j'ai entendu expression artistique, j'aime beaucoup ce terme. En fait, ce que l'on fait, c'est de l'expression artistique de toute façon. Par contre, ce qui est en train de se faire et ce qui se passe, ça, c'est une œuvre d'art. Mais par contre, c'est toujours proposé comme un processus à suivre une invitation collective. Aujourd'hui, ce qui est écrit, c'est le mouvement que l'on déplace. C'est le matériau avec lequel on se déplace et l'environnement. À partir de là, la partition dansée, s'il y en a une, elle est considérée comme un matériau comme les autres. En fait.
Vous écoutiez et Mouvoir, une émission consacrée aux nouvelles écritures et territoires de la danse à l'occasion des rencontres artistiques du Var. Enregistrée le 2 décembre 2008 à Toulon, la journée de rencontres, débats et spectacles était proposée par le Conseil général du Var en partenariat avec la Tannerie et le 3MICEF. Présentée par Caroline Breton et Sylvie Gerbeau, les débats étaient animés par Fred Kahn. Vous y avez entendu Gérard Mayen, Christophe Marquis, Carlo Taïkeda, Gwendoline Bacchini, Anne Le Batard, Sylvie Clidière, Alix Demorand et Serge Ricci, ainsi que des extraits des performances des compagnies Ex Nihilo et Rouge Indigo. Prise de son plateau, Pierre Brinjon. Reportage, interview et réalisation, Xavier Thomas, Radio Grenouille. Les trois émissions spéciales consacrées aux rencontres artistiques du Var sont en écoute et podcastables sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org.